D'ici 2 ans, le gouvernement prévoit de diviser par 3 le budget alloué à l'accompagnement numérique.
Ouais, diviser par 3, c'est vraiment brutal.
C'est énorme, hein. Surtout qu'au même moment, l'État accélère comme jamais. Leur objectif est hyper clair. 100% des démarches administratives, genre les impôts ou les aides sociales, doivent impérativement se faire en ligne.
Et c'est là que le contraste est vertigineux, en fait.
Bah oui, parce que d'un côté, on ferme les guichets physiques, on numérise tout à marche forcée. Et de l'autre, et c'est ça qui est fou, on coupe les vivres aux structures qui aident justement ceux qui ne maîtrisent pas ces outils.
Le résultat, c'est que près de 8,5 millions de personnes risquent de se retrouver littéralement incapables d'accéder à leurs droits fondamentaux. 8,5 millions, quoi.
C'est massif. Et bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent. C'est d'ailleurs le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Je suis votre animateur, toujours prêt à décortiquer les sujets complexes. Et je suis avec notre experte maison des politiques publiques.
Bonjour à tous. Ravi d'être là pour cette nouvelle plongée.
Alors aujourd'hui, on va se pencher sur des sources toutes fraîches. Un document publié le 16 avril 2026. C'est le très attendu rapport public annuel de la Cour des comptes sur l'inclusion numérique. Et notre mission, c'est de comprendre comment un sujet vu comme purement social est devenu un impératif de gestion publique absolue.
Exactement. Et ce qui frappe immédiatement à la lecture de ce rapport, c'est pas seulement le constat de la fracture numérique, ça on le sait, on en parle depuis des années.
Ouais, c'est pas nouveau.
Voilà. Ce qui est inédit, c'est vraiment l'identité de l'institution qui tire la sonnette d'alarme. La Cour des comptes, c'est pas une association d'aide sociale.
C'est le gendarme des finances publiques.
C'est ça. Sa mission première, c'est pas de faire dans le sentiment, c'est de traquer froidement le moindre euro d'argent public mal dépensé. Donc, quand une institution aussi austère s'empare d'un sujet perçu jusqu'ici comme une cause un peu caritative, ça veut dire que le problème a dépassé le stade de la simple précarité.
C'est devenu une anomalie systémique.
Absolument. Une anomalie qui menace l'efficacité même de l'État.
C'est vraiment ça qui m'a interpellé dès les premières pages. On s'attendrait à ce que ce genre de cri d'alarme vienne, je sais pas, d'organisations de terrain, celles qui voient les citoyens galérer tous les jours.
Tout à fait.
Mais là, non. On a des magistrats financiers qui regardent les chiffres et qui disent « Écoutez, votre modèle va dans le mur ». Si on examine les données qu'ils mettent en avant, il y a cette baisse budgétaire dont je parlais au début.
Les fameux crédits qui s'effondrent.
Ouais. Les crédits pour l'inclusion numérique vont passer de 41,8 millions d'euros à seulement 14 millions dans le projet de loi de finances 2026. 14 millions. Comment on justifie une telle coupe alors que la numérisation ne ralentit absolument pas?
Pour comprendre cette chute, il faut regarder comment ce budget a été construit à la base. En réalité, l'accompagnement numérique en France, il n'a jamais vraiment bénéficié d'un financement structurel pensé sur le long terme.
C'était du bricolage.
Un peu, oui. Il a été perfusé par des plans de relance, des enveloppes exceptionnelles, souvent décidées dans l'urgence après la crise sanitaire, vous voyez?
Oui, avec le Covid, l'urgence de mettre tout le monde en ligne.
C'est ça. Et ces 41,8 millions, ils servaient notamment à financer le déploiement des conseillers numériques France Service. Ce sont des milliers de professionnels embauchés sur tout le territoire pour aider concrètement les gens.
Genre créer une adresse email, remplir un formulaire.
Sécuriser un mot de passe, voilà. Sauf que le problème de ces financements de relance, c'est qu'ils ont une date de péremption. Et on y est.
Fin de la récréation budgétaire.
Exactement. Le gouvernement estime que l'impulsion a été donnée, donc il retire ses billes, d'où la chute à 14 millions. Sauf que le besoin des citoyens, lui, il n'a pas disparu.
Il a même augmenté, j'imagine. D'accord. Décortiquons tout ça. Laissez-moi utiliser une analogie, pour voir si je visualise bien la mécanique.
Allez-y.
Imaginez un grand restaurant très réputé qui décide de moderniser son service. La direction supprime tous les menus papier et oblige absolument tous les clients à commander via un QR code collé sur la table.
On a tous connu ça récemment.
C'est ça. Au début, pour faire passer la pilule, la direction embauche des serveurs supplémentaires. Leur seul rôle, c'est d'aller de table en table pour montrer aux clients plus âgés ou à ceux qui ont plus de batterie comment scanner ce fameux code.
D'accord.
Mais une fois que le système est installé, la direction se dit « Bon, on va licencier ces serveurs d'assistance pour faire des économies ». Et là, que se passe-t-il? Les clients qui ne maîtrisent pas le QR code, ils peuvent tout simplement plus commander. Ils s'énervent, ils partent et le restaurant commence à dysfonctionner totalement.
Ce qui est fascinant ici, c'est que votre analogie illustre parfaitement l'impasse logistique pointée par la Cour. La dématérialisation, elle est irréversible.
C'est un fait. On ne reviendra pas en arrière.
Non, c'est clair. Mais si l'État supprime ses serveurs d'assistance, il ne fait pas que perdre des clients. Il empêche des millions de citoyens d'interagir avec la République. C'est pour ça que cette approche froide des magistrats est si percutante.
Ils ne font pas dans l'émotionnel.
Pas du tout. Ils ne demandent pas la charité pour les exclus du numérique. Ils démontrent chiffre à l'appui que vouloir faire des économies à court terme sur ce petit budget, bah ça va coûter infiniment plus cher à la collectivité à long terme.
C'est une critique redoutable, en fait.
Implacable. Ça donne une légitimité sectorielle qu'aucune association caritative n'aurait pu obtenir. On exige l'efficacité de la dépense publique, point.
En gros, on dit au gouvernement « vous vous tirez une balle dans le pied ».
C'est tout à fait ça.
Et concrètement, si on s'attarde un peu sur ces 8,5 millions de personnes, on imagine souvent que ça concerne que les personnes très âgées et isolées. Mais j'imagine que pour atteindre un chiffre pareil, la réalité est plus complexe.
Ah oui, c'est un stéréotype très répandu de penser qu'il s'agit uniquement de nos grands-parents. L'âge joue un rôle, bien sûr, mais la fracture touche une population hyper variée.
Genre qui ?
Ben, prenez les millions de personnes en zone urbaine ou périurbaine. La connexion est parfois instable. Essayer de finaliser une démarche chronophage sur un réseau qui coupe, c'est impossible.
Ah oui, la fameuse zone blanche.
Voilà. Il y a aussi un enjeu de précarité économique. S'acheter un bon ordinateur ou payer un abonnement fibre, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'électronisme.
L'électronisme, c'est-à-dire ?
C'est le fait d'être à l'aise avec certains outils, mais incapable d'en utiliser d'autres. Beaucoup de jeunes sont des pros sur TikTok ou Instagram avec leur smartphone.
Mais demandez-leur de remplir un PDF de demande d'aide au logement.
C'est ça. Ils se retrouvent complètement paralysés face au jargon administratif d'un formulaire complexe.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois qu'on a fait les maths et qu'on réalise que couper le budget n'est pas viable, il y a une réalité humaine qui s'impose.
Et politique surtout.
Oui. D'ailleurs, dans son rapport, la Cour des comptes utilise un vocabulaire qui tranche radicalement avec son style habituel. J'ai noté des mots comme équité républicaine, cohésion territoriale et même le risque de relégation.
C'est un champ lexical très fort.
Carrément fort. Je dois avouer que ça m'a surpris. Lier un mot de passe oublié ou une déclaration d'impôt à un enjeu de paix sociale, est-ce que c'est pas un peu excessif pour un organisme d'audit ?
On a l'impression d'une exagération volontaire pour forcer la main aux décideurs.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est pas du tout une exagération. C'est au contraire une analyse extrêmement fine de l'ingénierie politique locale. La Cour a très bien compris qui va payer les pots cassés de ce désengagement.
Et c'est qui ?
C'est pas les ministres à Paris, hein. Ce sont les maires, les élus locaux, ceux qui gèrent les communes au quotidien. Ah, je vois. Le maire qui est en première ligne.
Exactement. Quand un citoyen se retrouve bloqué, qu'il ne touche plus ses allocations familiales ou qu'il ne peut pas renouveler sa carte d'identité parce que le site a planté et qu'il n'y a plus de guichet, bah, il ne va pas écrire au ministère de l'économie.
Il descend à la mairie.
Il tape du poing sur le comptoir du maire et il exige des explications.
D'où le terme de relégation. Le citoyen se sent abandonné, pas par un bug informatique, mais par l'État lui-même.
C'est le cœur du problème. Cette impossibilité d'accéder à un service public génère une frustration immense. Un sentiment de déclassement qui se transforme en une véritable défiance envers les institutions.
Et c'est ça la menace pour la paix sociale dont parle la Cour.
Absolument. Si des millions de personnes ont le sentiment que l'État s'est numérisé juste pour fuir ses responsabilités, ça crée des fractures profondes. Si l'État coupe les financements, les maires auront deux choix. Soit piocher dans leur propre budget municipal pour garder les conseillers numériques.
Ce qui est impossible pour les petites communes sans le sou.
Voilà. Soit fermer le service et affronter la colère de leurs administrés.
C'est fascinant parce qu'en utilisant ce levier de la cohésion territoriale, la Cour dit au gouvernement « Hey, c'est pas qu'une question de technique, c'est une bombe à retardement politique ».
Et c'est pour ça qu'ils imposent un calendrier aussi serré.
Oui, parlons-en du calendrier. Le rapport exige une mise en œuvre d'ici fin 2027. À l'échelle de l'administration, fin 2027, c'est demain matin. Hein.
Si rien n'est fait avant 2027, les contrats de milliers d'accompagnants vont s'arrêter net.
Et les structures fermeront.
La Cour veut créer un électrochoc avant que tout le tissu d'accompagnement ne se désintègre.
Bon, alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Le constat est alarmant, le compte à rebours est lancé, les maires paniquent. Mais quelle est la solution ? Une institution d'audit propose toujours une ingénierie pour désamorcer la crise, non ?
Bien sûr, ils ne se contentent pas d'être alarmistes. Le plan de la Cour repose sur un raisonnement en trois points. D'abord, ils partent du principe que la dématérialisation est irréversible. Ensuite, que l'accompagnement actuel est beaucoup trop fragmenté. Et enfin, qu'il faut un financement pérenne.
Donc, ils proposent quoi concrètement ?
Trois piliers. Le premier, c'est la consolidation. Il faut fusionner et clarifier les budgets publics. Aujourd'hui, une mairie qui veut aider ses citoyens doit passer un temps fou à monter des dossiers pour gratter une subvention à l'État, une autre à la région, une autre au département.
L'enfer bureaucratique classique, quoi.
un cauchemar. La Cour exige d'arrêter ce système d'appel à projets temporaires. Elle veut une ligne budgétaire unifiée, prévisible et assumée conjointement par l'État et les collectivités.
D'accord, donc on arrête de faire la manche tous les ans. Et le deuxième pilier ?
Ouais, l'opérationnalité. En gros, créer des feuilles de route avec de vrais indicateurs d'impact.
C'est-à-dire ?
Jusqu'à présent, pour justifier son financement, une structure disait juste « on a accueilli 500 personnes cette année ». Mais faire asseoir quelqu'un devant un ordinateur pendant 30 minutes pour cliquer à sa place, c'est pas de l'inclusion.
Ah, c'est de l'assistance d'urgence.
Exactement. Le but, c'est de rendre l'usager autonome. Donc il faut mesurer la montée en compétences. Par exemple, est-ce que Monsieur Dupont, qu'on a aidé cette année, sera capable de faire sa déclaration seul depuis son canapé l'an prochain ?
Ouh, mais c'est hyper complexe à mesurer, ça.
C'est tout le défi, mais ça justifie chaque euro dépensé et ça évite les hallucinations politiques où l'on fait des promesses sans vérifier si ça marche vraiment.
J'en viens au troisième point qui me semble être le plus sensible, l'intégration. Si j'ai bien lu, la Cour veut utiliser le réseau France Service comme pivot central.
Oui, tout à fait.
Mais pour clarifier pour notre audience, France Service, ce sont ces guichets uniques avec le logo de l'État, souvent dans les postes ou les mairies, qui aident pour tout un tas de démarches, des retraites aux cartes grises.
C'est ça, un guichet polyvalent.
Mais la Cour veut centraliser l'inclusion là-dedans. N'est-ce pas un pari super risqué ?
Cela soulève une question importante. Risqué dans quel sens, selon vous ?
Bah, historiquement, ce travail, il était fait par un maillage hyper dense de petites assos indépendantes, des centres sociaux, des tiers-lieux, des structures super agiles.
C'est vrai, très ancrées localement.
Elles connaissent les gens par leur prénom, elles s'adaptent aux spécificités d'une banlieue ou d'un village isolé. Et surtout, elles n'arborent pas le gros logo de la République.
Ce qui peut faire peur à certains.
Grave. Des gens qui sont en rupture totale avec l'administration ou qui en ont la phobie. Si on met tout sous la bannière de l'État via France Service, on risque pas de créer une bureaucratie rigide et de faire fuir ceux qu'on veut aider.
C'est le nœud de la tension actuelle. Vous pointez très bien le choix difficile entre agilité associative et stabilité institutionnelle. Les petites assos offrent du sur-mesure et un capital confiance énorme.
Bah oui.
Mais la Cour des comptes, elle, regarde la réalité financière. Ce maillage foisonnant, c'est souvent un archipel ultra précaire. Une association qui perd sa subvention, elle ferme le lendemain.
Et le quartier perd son filet de sécurité.
Exactement. La Cour fait un choix pragmatique. Elle privilégie un modèle standardisé, robuste. Le réseau France Service offre un repère unique, une cartographie lisible.
Tout le monde sait où c'est.
Voilà. En devenant le hub central, France Service ne détruit pas forcément les associations, mais il centralise la détection. Un agent qui reçoit quelqu'un pour un problème de carte grise peut repérer que la personne ne maîtrise pas Internet et l'orienter vers une vraie formation.
C'est une rationalisation industrielle du service social, en fin de compte. On sacrifie un peu le charme du petit tissu local pour garantir un service minimum partout. Et surtout, qui ne dépend pas d'un appel à projet aléatoire.
Et c'est la grande victoire sémantique du rapport. Ce qu'on observe, c'est la mutation d'un concept. L'inclusion numérique n'est plus une expérimentation ou une bonne action caritative.
Ça devient quoi alors, F ?
Ça doit devenir un service public de droit commun.
Un service public de droit commun ? C'est fort.
C'est un service de base que l'État doit fournir au même titre que l'accès à l'école ou l'entretien des routes.
C'est un changement de paradigme complet. Et pour quiconque cherche à s'informer sur comment se construit une politique publique, cette grille de lecture est précieuse. On voit la différence entre dire vaguement « il faut aider les gens » et avoir une stratégie claire, consolidée, mesurée, intégrée.
C'est la différence entre un souhait et une vraie politique d'État. Le défi, maintenant, pour le gouvernement, c'est d'assumer ça financièrement, malgré la baisse des budgets prévus dans le projet de loi. La Cour a mis la balle dans leur camp.
Nous arrivons au terme de cette analyse, et ce concept de service public de droit commun, ça me laisse avec une réflexion inédite. Et je voulais la partager avec vous et avec ceux qui nous écoutent.
Je vous écoute.
Si l'inclusion numérique, le fait de savoir naviguer en ligne, devient officiellement un besoin si vital que l'État doit en garantir la maîtrise, comme on garantit les routes, on peut se demander quelle est la prochaine étape.
C'est-à-dire ?
Si l'outil numérique est l'unique porte d'entrée pour interagir avec l'État, est-ce que ça signifie que bientôt, posséder physiquement un smartphone fonctionnel et une connexion Internet illimitée devra être reconnu comme un droit humain inaliénable ?
C'est une vraie question juridique et philosophique.
Imaginons un instant. L'État construit son autoroute numérique. Il finance même les cours de conduite via ses conseillers. Mais si le citoyen n'a pas les moyens de se payer le véhicule ou le carburant, donc l'ordinateur et la fibre, est-ce que ce sera bientôt à la collectivité de lui les fournir à 100%? gratuitement, comme on garantit l'accès à l'eau courante.
C'est une perspective qui donne le vertige, oui.
Complètement. Mais au rythme où la numérisation avance, c'est peut-être un débat de société qui va nous tomber dessus beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Merci de nous avoir accompagnés pour cette analyse.
Merci, à très bientôt.